Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite un joyeux sabbat et j'espère que vous allez tous très bien là où vous êtes. J'aimerais commencer par vous poser une question. Quels sont les points communs entre Joseph, Moïse et Jésus-Christ? Il y a pas mal de choses que nous pourrions dire. Nous pouvons dire qu'ils étaient proches de Dieu, bien sûr, Dieu le Père. Nous pouvons dire qu'ils avaient une importante mission, la principale étant de sauver un peuple ou une famille, ou du moins d'être un outil entre les mains de Dieu, Dieu le Père, pour sauver. Joseph a sauvé sa famille de la famine, qui sont les ancêtres des 12 tribus d'Israël. Moïse, sous la conduite de Dieu, a aidé à sauver Israël d'Égypte, de l'esclavage. Et Jésus-Christ, notre Sauveur, le vrai Sauveur de l'humanité, nous sauve tous. Nous pouvons dire aussi qu'ils sont passés par beaucoup d'épreuves. Regardons en détail ce que ces personnages bibliques ont réalisé. Commençons par Joseph. Joseph était l'un des fils de Jacob, dont le nom a été changé en Israël, et le fils de Rachel. Et il était le préféré parmi ses frères, son père le préférait, et il le montrait. Ses frères étaient devenus jaloux de lui, et ils l'ont finalement vendu comme esclave à des marchands qui l'ont emmené en Égypte. Il n'avait alors que 17 ans. Joseph est resté en servitude en Égypte, et puis en prison pendant plusieurs années, 13 ans au total. C'est une longue épreuve. À l'âge de 30 ans, il est devenu dirigeant en Égypte, second au pouvoir seulement après Pharaon. Et finalement, Joseph a sauvé sa famille de la famine. Voyons cela dans Genèse. Genèse, le chapitre 45, s'il vous plaît. Genèse 45. Genèse, le chapitre 45, et ici nous voyons que les frères de Joseph sont venus se ravitailler en Égypte, parce que la famine est sévère, et Israël, Jacob, les a envoyés pour se ravitailler. Et nous voyons cela ici dans Genèse 45, les versets 1 à 5, s'il vous plaît. Genèse 45, 1 à 5. « Joseph ne pouvait plus se contenir en voyant ses frères, devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Vous pouvez vous imaginer la stupeur de ses frères à ce moment-là. Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » C'est une histoire émouvante. C'est une histoire émouvante entre Joseph et ses frères. Joseph est resté fidèle à Dieu, il est resté intègre et droit dans ses choix. Et l'Éternel l'a utilisé comme une sorte de libérateur pour sa famille. Passons à Moïse. À cette époque, les descendants d'Israël étaient tombés en esclavage aux mains des Égyptiens. Moïse était un enfant hébreu de la tribu de Lévi. Et il a été sauvé du Nil, car Pharaon avait ordonné à ce moment-là que tous les enfants mâles, les nouveau-nés, soient tués, tous les garçons. Et il a été recueilli, sauvé par la fille de Pharaon. et il a été élevé dans la cour de Pharaon également. Voyons cela dans Actes, s'il vous plaît. Actes, le chapitre 7. Repentons-nous au livre des Actes, chapitre 7. Actes, le chapitre 7 et le verset 22. Acte 7 et le verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Moïse a donc reçu une éducation de haut vol, ce qu'il y avait de mieux à l'époque. Et selon l'historien Joseph Flavius, il était en fait un général de l'armée égyptienne. Mais Moïse a posé un choix différent. Il visita ses frères qui étaient dans la servitude. Allons à Hébreux, s'il vous plaît. Reportons-nous au livre d'Hébreux. Hébreux, chapitre 11, chapitre de la foi. Hébreux 11. Hébreux, le chapitre 11 et les versets 24 et 25. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Ici, Moïse fait un choix. Et il a préféré renoncer au luxe égyptien, renoncer d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, d'être à la cour de Pharaon, et rester avec ses frères, les Israélites. Moïse a vécu 120 ans. Il est intéressant de voir comment Dieu est précis. Parce que Moïse est resté en Égypte pendant 40 ans. Voyons ça dans Acte 23. Acte 7, s'il vous pardon, le verset 23. Retournons dans Acte, où nous étions, le chapitre 7 et le verset 23 cette fois-ci. Acte 7 et le verset 23. Il avait 40 ans, donc Moïse, lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Après cela, il a passé 40 ans hors du pouvoir d'Égypte et est devenu berger pour son beau-père. Le verset 30 de Acte 7. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Et enfin, Moïse est resté 40 ans dans le désert avec les enfants d'Israël. Et nous voyons cela aussi dans le même chapitre, au verset 36 cette fois-ci. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte. Verset 36. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. 40 ans. Trois périodes de 40 ans. Trois périodes bien différentes. Moïse a été berger pendant 40 ans. Quand on y pense, quel revers pour un grand d'Égypte. Mais il a fini bien autrement. Il a fini par mener Israël vers la terre promise, les guidant vers la terre promise en tant que dirigeant, en suivant le rocher, en suivant Jésus-Christ, l'Éternel de l'Ancien Testament. Lui aussi a été comme un type de libérateur pour le peuple d'Israël, suivant l'Éternel. Passons à Jésus-Christ. Jésus-Christ était Dieu la parole, le Dieu de l'Ancien Testament, comme nous venons de voir. Celui qui s'est présenté à Moïse, dans le buisson ardent, c'était lui. Celui qui a guidé Israël hors d'Égypte. Celui qui a parlé avec Abraham parmi les chênes de Mamré et qui a fait une alliance avec lui. Reportons-nous à Jean. Jean 1. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, les versets 1 à 3, et puis je lirai le verset 14. Jean 1, les versets 1 à 3, pour commencer. Au commencement était la parole, Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Partie de la même famille. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et le verset 14, « Et la parole a été faite chair. » Dieu a été fait chair, Jésus-Christ. « Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Il était donc plein de gloire aux côtés de Dieu le Père. Mais lui aussi a fait un choix difficile, un choix incroyable. Venir en tant qu'homme et mourir pour payer l'amende de nos péchés, la sentence que le péché demande à notre place. Il est venu dans la chair, prenant la forme d'un serviteur. Et il a souffert une mort difficile à décrire. Mais il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan et ses démons. Et il reviendra sur terre pour régner en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Jésus-Christ n'est pas un type de libérateur, il est le libérateur. Lui et Dieu le Père d'ailleurs, car ils sont un. Ils travaillent ensemble pour amener toute leur famille à une gloire éternelle. Mais qu'ont Joseph, Moïse et Jésus-Christ en commun ? Beaucoup de choses. Ils sont un exemple à suivre pour nous tous. Ils ont libéré leur famille, leur peuple, d'un danger, d'une situation difficile. Jésus-Christ va libérer l'humanité de l'emprise de Satan et ses démons lorsqu'il reviendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs lors de son second avènement. Ils ont aussi connu un changement de circonstances important dans leur vie. Joseph était au sein de sa famille, auprès de son père, et puis il a soudainement été vendu et s'est retrouvé lié à la servitude. Moïse était à la cour de Pharaon et s'est soudainement retrouvé à faire paître des brebis dans le désert pendant 40 ans. Jésus-Christ était rempli de gloire auprès de Dieu le Père, étant Dieu lui-même, et est devenu un homme dans la chair. Des changements importants. Ils ont tous les trois connu un sérieux changement de circonstances dans leur vie. Ils avaient une certaine position et ils ont été abaissés pour un moment. Dieu le Père avait une mission pour eux et il les a préparés pour leur futur rôle. Et ils sont passés par des épreuves difficiles. Qu'en est-il de nous, frères et sœurs ? Connaissons-nous des expériences similaires, des revers dans la vie ? Des situations où nous sommes abaissés, voire humiliés ? Vous savez, parfois les corrections que nous subissons peuvent survenir pour nous corriger. Dieu le permet si c'est nécessaire, pour nous aider à revenir sur le droit chemin, pour nous aider à corriger une faute persistante peut-être. C'est ce qu'il a fait avec le roi David lors de l'épisode avec Bathsheba, lorsqu'il a commis un adultère, lorsqu'il a tué Uri, son mari. Il a fait ça pour le corriger, pour le ramener dans le droit chemin, pour lui montrer les conséquences, comme le péché n'est pas beau. Vous vous rappelez l'histoire de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone ? Comme il se pavanait et s'enorgueillissait de tout ce qu'il avait réalisé. Dieu lui a montré qui était vraiment en charge. Lisons cela dans Daniel. Daniel, le chapitre 4. Daniel, le chapitre 4, s'il vous plaît. Daniel 4, et les versets 26 à 33. Daniel 4, le chapitre 4, et les versets 26 à 33. Et je cite, « Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi Nebuchadnezzar, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Empli d'orgueil. Verset 28. « La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends au roi Nebuchadnezzar qu'on va t'enlever ton royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront, 7 années, sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme des bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Il était redevenu un animal. L'esprit de l'homme en lui avait été retiré. Verset 31. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel après cette année et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Quelle leçon pour Nebuchadnezzar ? Quelle leçon il a dû apprendre ? Il a réalisé que Dieu était en charge et que tout vient de lui, pas d'un homme. Voyons ce qu'il lit au verset 34. Au verset 34, Nebuchadnezzar dit « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Il a rendu gloire à Dieu, Nebuchadnezzar. Quel changement drastique d'attitude! Et on voit ici, par cet exemple, que Dieu travaille, bien sûr, avec son peuple. Mais Dieu a une vision bien plus large que la nôtre. Dieu travaille avec beaucoup de personnes. Pas seulement avec le peuple d'Israël. Pour maintenant, pour le futur. Tout ce qui se passe dans le monde se fait selon sa volonté, selon le dessein divin, selon ce qu'il permet. Mais être abaissé, connaître un revers dans la vie, un changement drastique de circonstances, n'est pas toujours le résultat d'une faute ou d'un péché. Alors pourquoi ? Pourquoi Dieu permet-il cela ? Voyons cela ensemble. Voyons 3 points qui, je l'espère, pourront nous aider à mieux comprendre pourquoi Dieu permet que nous passions par ce genre d'épreuves. Que nous perdions certaines choses, un statut, un travail. Pourquoi Dieu permet que nous soyons abaissés pour un moment? Ces 3 points sont pour nous rendre humbles, pour nous enseigner l'espoir et l'obéissance, et pour nous aider à mettre les choses en perspective. Ce sont nos 3 points pour ce sermon. Voyons le premier. Pourquoi Dieu permet-il que nous soyons abaissés pour un moment? Pour nous rendre humbles. C'est notre premier point. Michée, le chapitre 6, s'il vous plaît. Michée, le chapitre 6 et le verset 8. C'est un verset que nous connaissons sans doute bien. Michée, le chapitre 6. Michée, le chapitre 6 et le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Vous voyez, Dieu établit les règles. Nous sommes sa création. Il est le Créateur. Et il définit ce qui est bien. Et il nous dit que ce qui est bien est de lui obéir, de pardonner à notre prochain et d'être humble devant lui. L'humilité est une condition sine qua non pour nous approcher de Dieu, pour marcher avec lui. Dieu déteste une attitude orgueilleuse. Voyons ce qu'on peut lire dans Jacques, s'il vous plaît. Jacques, le chapitre 4. Jacques, le chapitre 4. Et le verset 6. Jacques, le chapitre 4. Et le verset 6. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, c'est ce qui nous intéresse ici, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'orgueil, c'est ce qui est contraire à l'humilité. Bien qu'avant que les hommes ne soient créés, un être spirituel du nom de Lucifer a choisi de défier Dieu, de se rebeller contre Dieu. Et vous pouvez lire cela dans Ésaïe, le chapitre 14, les versets 13 et 14. Ne vous y reportez pas, vous pouvez lire ça chez vous si vous le désirez. L'orgueil s'est implanté dans le cœur de celui qui est devenu Satan le diable. Et malheureusement, cet orgueil fait maintenant partie de son caractère. Il est implanté en lui. Dieu déteste l'orgueil. C'est une source de conflit, c'est une source de rébellion. Et c'est quelque chose auquel nous devons faire particulièrement attention, frères et sœurs. Ne soyons pas orgueilleux. Voyons un exemple avec Joseph. Genèse 37, s'il vous plaît. Genèse 37. Savons que Joseph suivait Dieu, a été intègre dans ses voies. Mais voyons quelque chose qui peut nous apprendre un peu plus ici. Genèse 37, le chapitre 37 et les versets 5 à 11. Et je cite, « Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Ils le haïssaient déjà parce qu'il était le préféré de leur père. Et c'est encore pire maintenant. Verset 6. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Joseph qui parle. Nous étions alliés des gerbes au milieu du champ. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Pas quelque chose qu'ils vont apprécier, n'est-ce pas ? Verset 8, ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles, se prosternèrent devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Et son père le réprimanda cette fois et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alors ça nous fait nous poser une question. Est-ce que Joseph avait un manque d'humilité, peut-être, envers ses frères ? Était-il peut-être arrogant dans son approche. Peut-être, nous avons tous des choses à changer, nul d'entre nous n'est parfait. Et ces paroles, les paroles de Joseph, ces songes étaient clairement prophétiques. Mais peut-être a-t-il fait preuve de naïveté. Il n'avait que 17 ans à l'époque, ou en tout cas pas plus de 17 ans. Il était jeune. Il devait apprendre. Allons à Proverbes, le chapitre 15. Proverbes 15 et le verset 33. Proverbe, le chapitre 15 et le verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. C'est intéressant. Dieu nous dit que l'humilité vient seulement, l'humilité vient avant la gloire, en premier lieu, et puis seulement la gloire après. Et c'est certainement vrai pour Joseph, pour Moïse. Ils ont été humiliés. Allons à Nombre, s'il vous plaît. Nombre, le chapitre 12. Voyons comment Dieu considérait Moïse. Nombre, le chapitre 12. Nous allons voir un épisode ici avec son frère Aaron et sa sœur Myriam. Nombre 12, les versets 1 à 3. Ou Marie. Marie ou Myriam. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? Nous sommes aussi importants. C'est ce qu'il se disait. Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Une meilleure traduction du mot « patient » dans le verset 3 peut être traduite par « humble ». Humble. Moïse était le plus humble des hommes sur toute la surface de la terre. Vous savez, à ce moment-là, il avait plus de 80 ans. Il avait été dans la cour de Pharaon, puis abaissé à un rôle de berger, travaillant pour son beau-père. Et c'est d'ailleurs ce que Jacob a dû faire aussi pour son beau-père, travaillant pour Laban pendant de nombreuses années. Moïse a appris l'humilité. Jacob, qui est devenu Israël, a appris l'humilité. Nous devons tous apprendre l'humilité. Allons à Philippiens. Philippiens, le chapitre 2. Philippiens, le chapitre 2. Dieu veut que nous marchions avec lui humblement. Et c'est pareil pour tous ceux qui l'appellent. Pour toute l'humanité qui devra l'apprendre un jour. Philippiens, le chapitre 2, et les versets 3 à 8. Philippiens 2, les versets 3 à 8. Philippiens 2, les versets 3 à 8. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ce n'est pas facile à faire, frères et sœurs. Verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est l'exemple que Jésus-Christ nous donne. Il n'a jamais péché, il était parfait dans toutes ses voies. Quel exemple pour nous ! Il s'est humilié lui-même, de sa propre volonté. Il s'est mis d'accord avec Dieu le Père pour ce plan, pour nous sauver. D'être glorieux, il est devenu un être de chair et de sang. Il a fait cela pour nous sauver, mais aussi pour nous montrer un exemple d'humilité, pour nous montrer la voie. Il nous a montré cela lors de la cérémonie de la Pâque, n'est-ce pas ? Lors de la cérémonie du lavement des pieds. Il nous a montré un exemple que nous devons suivre chaque année, Jésus-Christ est un exemple d'humilité. Suivons-le, frères et sœurs. Il est notre exemple parfait. Dieu travaille avec des personnes humbles. Et il nous prépare en ce sens, pour que nous puissions marcher avec lui, pour que nous puissions travailler ensemble pour l'éternité. Passons au deuxième point. Pourquoi Dieu permet-il que nous soyons abaissés pour un moment ? La deuxième raison, pour nous enseigner l'espoir et l'obéissance. Pour nous enseigner l'espoir et l'obéissance. Vous savez, un revers dans la vie nous montre nos propres limites. Cela nous montre que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Et cela nous pousse à mettre notre espoir en lui, à compter encore plus sur lui, à croître dans cet espoir. Reportons-nous à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 13, le chapitre de l'amour. 1 Corinthiens, le chapitre 13 et le verset 13. 1 Corinthiens, le chapitre 13 et le verset 13. Un superbe chapitre à lire. 1 Corinthiens 13, le verset 13. « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » La foi, l'espoir et l'amour. Des notions très importantes sont listées ici. L'espoir est important aux yeux de Dieu. Dieu espère que nous prendrons les bonnes décisions. Il espère que tous se repentent, c'est ce qu'il espère le plus. Il veut que tous arrivent à la repentance et arrivent dans son royaume. C'est ce qu'il veut. Mais nous avons d'autres choix. Dieu veut que nous espérions en lui parce qu'il va nous délivrer. Il va nous délivrer un jour. Et il nous délivre par Jésus-Christ. Et vous pouvez lire ça dans Romains 7, les versets 24 et 25. Ne vous y reportez pas. Vous pouvez lire ça chez vous. Jésus-Christ, Romains 7. Nous sommes délivrés par Jésus-Christ, pardon. Et vous pouvez lire ça dans Romains 7, les versets 24 et 25. Mais allons à Romains 5. Donc, toujours dans le livre de Romains, mais au chapitre 5, s'il vous plaît. Romains, le chapitre 5, les versets 3 à 5. Romains, le chapitre 5 et les versets 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne déçoit pas. La résistance dans l'épreuve produit cette espérance. Cette espérance que Dieu va intervenir, que Dieu va nous délivrer. Et la délivrance finale, nous le savons, ce sera lors du retour de notre Sauveur Jésus-Christ. En attendant, Dieu nous prépare. Il nous forme pour une position future dans son royaume, comme Joseph, comme Moïse. Et comme d'autres ont été préparés aussi, ou sont préparés maintenant, nous sommes un peuple, une famille, amenés à travailler ensemble. Nous sommes tous préparés à cela. Parfois, lorsque l'épreuve semble toucher à sa fin, elle revient. On espère qu'elle soit passée et elle revient. Elle revient, mais peut-être sous une autre forme. Et alors là, on se sent découragé, on se sent seul. Voyons l'exemple de Joseph dans ce contexte. Genèse, le chapitre 40. Genèse, le chapitre 40. On retourne dans le livre de Genèse, le chapitre 40 cette fois. Genèse, le chapitre 40, le verset 14 Et puis, je lirai les versets 20 à 23. Le verset 14, tout d'abord. Mais souviens-toi de moi. En fait, ici, Joseph a interprété les rêves de deux personnes qui sont en prison avec lui, les chansons notamment. Et il leur a dit ce qui va se passer. Et il fait une demande particulière ici à les chansons. Verset 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, quand tu seras sorti de cette prison, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, fais-moi sortir de cette prison. Les versets 20 à 23. Après qu'ils soient libérés, ils sont libérés là maintenant, et verset 20, le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Verset 21. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. C'est ce que Joseph leur avait dit qui allait arriver, et c'est arrivé. Verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Comment pensons-nous que Joseph a dû se sentir à ce moment? Il a dû se dire, enfin, ma libération est proche. Je vais pouvoir revoir mon père, je vais revoir mon pays. Mon épreuve touche à sa fin. Mais non, les chansons l'oublient. Comment Joseph a-t-il dû se sentir? Délaissé? Abandonné? Il devra attendre 2 années supplémentaires en prison avant de voir les choses changer drastiquement pour lui. Nul doute qu'il a crié, prié Dieu de le délivrer. Dieu a un plan. Dieu a un plan et Dieu agit en son temps. Et c'est à ce moment-là, quand c'est difficile, que nous devons continuer à espérer comme nous l'avons lu dans Romains. C'est à ce moment-là que nous devons ne pas abandonner. Joseph n'a pas abandonné. Ça a été un moment terrible à passer, j'en suis persuadé. Mais il n'a pas abandonné. Allons à Hébreux, s'il vous plaît. Hébreux, le chapitre 5. Hébreux, le chapitre 5. Hébreux, le chapitre 5. Hébreux 5, les versets 5 à 10, et je cite. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Ça vient de Dieu le Père. Verset 6, comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, dans les jours de sa chair, Jésus-Christ donc, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Vous vous rappelez sa prière dans le jardin de Gethsémané? Verset 8. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance. L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. On parle ici de Jésus-Christ, Dieu la parole. Il a appris l'obéissance en toute chose au Père. Quand on y pense, waouh! C'est quelque chose, vous ne trouvez pas? Quelle ampleur cela donne au sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur, quand on considère ces détails. Jésus-Christ est venu, non seulement pour nous sauver de la mort, mais pour nous montrer un exemple à suivre. Devons-nous apprendre à obéir? Est-ce que Dieu veut que nous obéissions? Oui, bien sûr, bien sûr. parce que c'est ce que Jésus-Christ a fait également. Et nous devons le laisser vivre sa vie en nous, marcher dans ses pas. Voyons ce qu'il dit dans Jean. Jean 15, s'il vous plaît. Jean, le chapitre 15 et le verset 10. Jean 15, verset 10, les paroles de Jésus-Christ. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. C'est un verset clé quand on entend que ne doit pas garder ses commandements. Bien sûr qu'on doit garder ses commandements. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus-Christ nous a montré un exemple à suivre. Il a obéi à notre Père. Il a gardé ses commandements. Et il nous dit de faire de même, clairement. Passons au troisième point. Lorsque nous vivons une période difficile, donc peut-être que nous sommes abaissés pour un moment, cela peut nous aider à mettre ou à voir les choses avec plus de perspective, à mettre les choses en perspective. Et c'est le troisième point. Mettre les choses en perspective. Vous savez, faire l'expérience de moments comme ça, moments un peu pénibles, un revers dans la vie, nous aide à se rendre compte que tout n'est pas dans nos mains. Et ça nous aide à remettre du sens dans notre vie, à remettre les priorités là où elles doivent être. Parfois, nous pouvons considérer certaines choses comme acquises. Mais la réalité est que les choses changent. Cette vie physique que nous vivons va disparaître. Elle est temporaire. Notre nature humaine, elle est résistante au changement. On n'aime pas le changement. Et nous n'aimons certainement pas de perdre quelque chose que nous avons, que ce soit un travail, un statut social ou autre. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas agréable. Mais nous pouvons demander à Dieu de nous aider à regarder au-delà de ces choses, au-delà de ce qui est physique, et de nous délivrer et de nous aider à voir ce que Dieu a en tête pour nous, ce qu'il veut que nous apprenions. Mettons notre confiance en lui. Allons à Colossiens. Colossiens, le chapitre 3. Colossiens, le chapitre 3. Colossiens, le chapitre 3, et les versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dieu veut que nous ayons les yeux fixés sur lui, sur l'objectif, sur le royaume, que nous recherchions son royaume avant toute chose. C'est une question de priorité. Il ne veut pas que nous ayons nos yeux fixés sur ce qui est temporaire, sur ce qui est destiné à disparaître. Et donc, cela nous donne une perspective différente dans la vie. Lorsque nous passons par des moments un peu plus compliqués, ce qui compte, notre espoir, c'est la gloire qui nous attend. C'est ce que Dieu fait maintenant dans notre vie, comment il nous forme. C'est son plan pour toute l'humanité. Les épreuves par lesquelles nous passons peuvent nous aider à faire preuve de perspective. Elles peuvent nous aider à mesurer notre vie physique avec l'espérance de notre vie spirituelle et voir ce qui est important. Ayons nos yeux fixés sur le but, frères et sœurs. Passer par des moments difficiles nous aide également à apprécier les épreuves auxquelles d'autres font face. Cela nous aide à développer de l'empathie pour ceux qui souffrent, qui sont dans la maladie. Retournons à Hébreux. Hébreux, le chapitre 4. Hébreux, le chapitre 4. Hébreux, le chapitre 4, et les versets 14 à 16. Hébreux, le chapitre 4, et les versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il a été parfait à tout moment de sa vie. Et le verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Dans ces moments-là, dans les moments difficiles, nous pouvons commencer à ressentir ce que les autres ressentent, ressentir les souffrances par lesquelles ils passent et compatir, nous mettre à leur place. C'est plus facile de comprendre une situation difficile lorsque nous avons nous-mêmes expérimenté la même chose. Voyons un exemple de Jésus-Christ ici. Comment il compatit. Jean, s'il vous plaît. Retournons à Jean. Le chapitre 11. Jean 11. Jean 11, versets 20 à 35. Jean 11. Jean 11, les versets 20 à 35. Jean 11, 20 à 35. Et je cite, « Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, donc Lazare est mort à ce moment-là, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort, Lazare. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et elle dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Verset 29. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Jésus pleura. C'est toujours un passage émotionnel, je trouve, à lire. Jésus-Christ, bien sûr, avait des émotions. Il a fait l'expérience de difficultés avant même sa crucifixion. Jésus-Christ est passé par beaucoup de moments et d'émotions humaines. Il les a éprouvés lui-même. Il sait et il peut nous aider, il compatit dans nos détresses. Passer par des épreuves nous fait apprécier la vie. Cela change notre perception des choses, nous donne une autre perspective de vie. On se rend compte à ce moment-là que ce qui est vraiment important, ce ne sont pas les choses physiques, pas les choses matérielles. Ce qui importe, c'est la vie, tout simplement. Et la vie que nous attend, frères et sœurs, c'est la vie éternelle. Pas simplement la vie physique, la vie éternelle. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons parlé de comment Dieu nous prépare à notre rôle. Parfois un rôle dans cette vie, parfois et surtout dans le rôle que Dieu a en réserve pour nous dans son royaume. Et c'est la prérogative de Dieu. Il est en charge, il est le créateur, il sait ce qu'il veut, il sait où nous mettre, où nous placer dans son royaume. Et il va laisser certains éléments arriver dans notre vie, même si parfois certains revers sont nécessaires. Et nous pourrions dire que ces revers nous arrivent afin que nous puissions reculer pour mieux sauter, avoir du succès. Dieu a une position pour nous dans son royaume. Jésus-Christ nous prépare une place. Afin que nous puissions remplir ce rôle, Dieu nous façonne maintenant. L'Éternel marche avec les humbles. Dieu nous façonne, nous enseigne à lui faire confiance, à espérer en lui, à lui obéir. Et Dieu nous aide à appréhender la vie différemment, afin que nous puissions voir où se situent les vraies priorités. Pour conclure, allons à Jacques, s'il vous plaît, le chapitre 1 et le verset 12. Jacques 1 et le verset 12. Jacques, le chapitre 1 et le verset 12, et je cite, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Ne perdons pas courage, frères et sœurs. Persévérons jusqu'à la fin en suivant Dieu. Ce que Dieu fait et ce qu'il a en réserve pour nous est merveilleux. Et cela dépasse de loin tout ce que nous pouvons imaginer. »